Merci. Bonjour à toutes et à tous d'abord. Donc, merci de m'avoir invité à ce séminaire. Alors, je vais juste dire un mot pour préciser que cette intervention d'aujourd'hui se situe à moi un peu particulier puisque je viens de soutenir mon habilitation et ce qui signifie que, en termes de turbulences intellectuelles et autres, c'est une période un peu charnière, ce qui va se traduire dans mon intervention par la proposition d'un certain nombre d'avancées, mais aussi par le partage d'un certain nombre de questionnements. Donc voilà, je suis un peu dans cette optique que je vais intervenir. Alors je vais commencer par deux remarques sur le... Je vais commencer par deux remarques sur le thème de la journée, puisque le thème de la journée c'est travail enseignant et formation. Alors, j'étudie le développement professionnel de l'enseignant, mais pour l'instant, en tous les cas, c'est dans le cadre du travail enseignant au quotidien. Ça signifie que je n'investis pas directement la sphère de la formation au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire formation initiale en IUFM ou différentes modalités de formation continue. Je pourrais dire que je m'intéresse plutôt à une formation expérientielle. Je vais y arriver à maîtriser, excusez-moi. Comment, au travers de l'exercice de son métier, l'enseignant construit son expérience professionnelle. Je précise bien que je ne dis pas que la formation professionnelle traditionnelle n'a rien à voir avec le développement professionnel. Je dis simplement que, actuellement en tout cas, je ne l'étudie pas. Je viens de préciser que j'étudiais le développement professionnel de l'enseignant dans le cadre du travail enseignant au quotidien. Je rajoute que je rentre ou que j'investis le thème du travail enseignant, comme le disait Jean-Louis Lérouet, par le biais des pratiques professionnelles, avec une particularité que je développerai par la suite, de m'intéresser à la fois aux pratiques d'enseignement dans la classe, face à un groupe d'élèves avec un savoir scolaire en jeu, et à l'ensemble des pratiques enseignantes, c'est-à-dire de coordination, de collaboration, de coopération, etc. Aussi bien donc interindividuel, dans le cadre de diverses formes de partenariat, que collective, et aussi bien dans les situations formalisées, comme les conseils de cycle, les conseils de classe, ou des situations non formalisées, comme la salle des professeurs, la cour de récréation, etc. Alors je poursuivrai par quelques points de repère sur qui permettront de mieux saisir le cadre de mes recherches. Je vais partir pour cela du titre de ma note synthèse, Apprendre en travaillant, parce qu'il permet de mettre en évidence l'enjeu scientifique de mes recherches, c'est-à-dire l'apprentissage des professionnels en milieu professionnel. Il insiste aussi sur le rôle de l'action dans les apprentissages. Le professionnel apprend dans et par ses pratiques professionnelles. Par ailleurs, ce professionnel n'apprend pas tout seul, ou n'apprend pas que tout seul en tout cas, et je m'intéresse plus particulièrement à la dimension sociale de l'apprentissage. Apprendre des autres, apprendre aux autres, apprendre avec les autres. Dans un article récent, j'ai parlé de collègues formateurs. Cela m'amène au sous-titre de ma note de synthèse, contribution à une approche socio-cognitive du développement professionnel. Et donc, quatre remarques. En fait de professionnel, vous l'avez compris, mes travaux concernent essentiellement l'enseignant. Mon objet d'étude est le développement professionnel de l'enseignant entendu comme son évolution dans le métier et qu'on pourrait aisément rapprocher de la professionnalisation, de la construction de l'expérience professionnelle, de la socialisation professionnelle même. L'approche est socio-cognitive, ce qui indique que je m'intéresse principalement à la composante cognitive du développement. Sans la nier, je n'étudie pas, par exemple, la composante affective. Et que je l'appréhende dans sa dimension sociale, interindividuelle, collective, sans hiérarchie entre les deux. Il ne s'agit que d'une contribution, je vous l'ai dit, ce qui souligne à la fois la modestie et les limites de ma proposition. Je m'efforce de poser actuellement les bases d'un cadre de recherche. Je ne suis pas en mesure de vous présenter une théorie générale du développement professionnel de l'enseignant aujourd'hui. Alors, je conclurai ce propos introductif par la présentation du plan de mon intervention. Donc, je dirai quelques mots dans une première partie de l'ancrage socio-cognitif de mes recherches. Je développerai un peu ce que j'entends par développement professionnel de l'enseignant. je donnerai quelques repères méthodologiques et ensuite je m'appuierai sur des recherches récentes pour investir un peu quelques pans du développement professionnel au niveau interindividuel et au niveau collectif. Donc, l'ancrage socio-cognitif de mes recherches, il relève, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il relève à la fois d'un choix scientifique et d'un choix, enfin pas d'un choix, et d'un choix scientifique qui se trouve renforcé par l'évolution du travail enseignant et notamment par le développement de cette dimension partenariale et collective. Je vais le préciser. Alors, le choix scientifique, en fait, je réfute à la fois une vision qui serait internaliste du développement, c'est-à-dire qui ferait reposer le développement ou l'explication du développement sur les caractéristiques de l'individu, ses gènes, son talent. Et de la même manière, je réfute une vision strictement externaliste de ce développement qui le ferait reposer sur des méthodes de formation ou d'enseignement prétendument universelles ou sur des formes de déterminisme. Pour reprendre la typologie de Louis Nott, qu'il propose à propos de l'apprentissage, à propos des théories de l'apprentissage, j'adopte une approche interstructurante, c'est-à-dire au détriment d'une approche autostructurante ou hétérostructurante. C'est-à-dire que je défends que d'une part, on n'apprend pas tout seul, et que d'autre part, on ne nous apprend pas, ou on n'apprend pas à notre place. L'apprentissage et le développement... J'ai un peu de mal, je m'excuse. L'apprentissage et le développement sont d'abord des processus sociaux qui mobilisent des interactions sociales. On apprend avec et par les autres. On apprend simultanément des autres et aux autres. Et je rajoute que ce choix est largement défendu et s'inscrit dans des filiations multiples, et parmi lesquelles je pourrais citer Vallon, Vygotsky, Léontiev, Bandura, les néo-piagétiens, Malrieux, etc. Alors, je disais que ce choix scientifique était renforcé par l'évolution du travail enseignant, c'est-à-dire par un constat social ou sociétal, qui, ces dernières décennies, a été transformé, a diversifié ce que Tardif et Lessard appellent sa modalité cellulaire dans la classe, comme une cellule un peu isolée, cloisonnée, et a rompu avec l'image de l'enseignant loup solitaire, pour reprendre l'expression du Berman. Alors, quelques remarques sur cette évolution que j'ai analysée un peu plus finement ailleurs. Je vais simplement donner quelques pistes. En France, cette évolution est impulsée par les politiques éducatives qui, dans le prolongement des lois de décentralisation et de déconcentration, vont accorder une large part, ou une part en tout cas plus importante, d'autonomie au local. Bon, la création des EPLE pour le secondaire en constitue une bonne illustration. La prise en charge de cette autonomie va requérir d'autres compétences de la part des acteurs, ce qui explique en partie, soyons modestes, ce large mouvement de professionnalisation qui est notamment attesté par la création des IUFM. Cela passera en particulier par la participation des enseignants à des instances collectives de décision, les différents conseils qui se multiplient, on vient de voir la création du conseil pédagogique dans le secondaire, mais aussi s'accompagnera de fortes incitations à des modalités de collaboration, aussi bien entre enseignants, la prise en charge des cycles ou la collaboration avec le RASET dans le primaire, les IDD en collège, les TPE en lycée, plus récemment les PPRE, je m'excuse de l'ensemble des cycles, mais je suppose que ça vaut quelque chose, qu'avec d'autres partenaires que les enseignants, les parents d'élèves, qui sont érigés en membres à part entière de la communauté éducative, les intervenants extérieurs, les assistants d'éducation, évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Alors, nous pouvons constater que ces transformations relèvent des orientations des politiques éducatives, elles se traduisent de manière opératoire dans les textes officiels, elles sont largement relayées par les différents niveaux de la ligne hiérarchique, des enseignants, bien sûr, et elles se répercutent dans le quotidien des écoles et des établissements scolaires. Les différentes enquêtes qui ont porté sur cette question-là, montre que ces transformations sont repérables, même à tous les niveaux du système, même si elles sont quand même plus importantes dans le primaire que dans le secondaire. À ce propos, je cite juste un facteur explicatif extrait de l'ouvrage de Patrick Rayou et d'Agnès Vazentin. Il semblerait que dans le secondaire, les nouveaux lycéens, puisque c'est le thème de leur enquête, la discipline enseignée constitue un obstacle pour la collaboration entre les enseignants de disciplines différentes, qui ne voient pas comment ils pourraient travailler. Alors, en résumé, nous pouvons dire qu'en quelques décennies, le travail enseignant donc, a amorcé une profonde mutation, en passant d'une modalité exclusive et strictement individuelle, les pratiques d'enseignement dans une classe face à des élèves et avec le plus souvent, pas toujours mais le plus souvent, un savoir scolaire en jeu, à des modalités diversifiées, des pratiques enseignantes partenariales et collectives, souvent hors de la classe, mais le plus souvent dans l'école ou dans l'établissement, parfois hors de la présence des élèves, avec différents partenaires, donc au sein de dispositifs variés, au sein desquels la mise en jeu des savoirs scolaires est aussi très diversifiée. Alors je renvoie, si ça vous intéresse, à plusieurs ouvrages collectifs que j'ai coordonnés seul ou avec des collègues sur ce thème. Je vous cite les titres simplement. Les pratiques enseignantes hors de la classe, dans la classe, hors de la classe, l'évolution de l'espace professionnel de l'enseignant, et coordonner, collaborer, coopérer de nouvelles pratiques enseignantes qui va sortir prochainement chez Debout. Voilà, donc on a un peu exploré ces questions-là. Alors, le développement professionnel de l'enseignant, qui est quand même le centre de mon intervention d'aujourd'hui, je ne vais pas procéder à une recension des travaux sur le développement professionnel et sur le développement professionnel de l'enseignant, qui sont nombreux et diversifiés. Je vais m'en tenir simplement à leur caractérisation pour mieux préciser quelles sont les miennes d'orientation. Je rajouterai quand même que le développement professionnel, surtout sur les enseignants, est rarement défini de manière très fine et est souvent évoqué, mentionné, sinon comme un allant de soi, tout au moins de manière un peu syncrétique, je vais dire. Alors, les travaux consacrés au développement professionnel des enseignants, soit ciblent la durée de la carrière, je pense notamment aux travaux de Lieberman, soit, et c'est beaucoup plus fréquent, des dispositifs de formation, je pense aux travaux de D, aux travaux de Gatterculer. Dans ce second cas, ils ont majoritairement une visée normative, c'est-à-dire qu'ils proposent des dispositifs de formation supposés favoriser le développement professionnel. Dans le meilleur des cas, ils les évaluent. Enfin, de manière générale, le lien avec les pratiques professionnelles est assez ténu et le développement est surtout appréhendé au niveau des perceptions des acteurs. Donc, les orientations de mes recherches sont un peu différentes. Elles ont une visée strictement heuristique, c'est-à-dire que je m'efforce de mieux connaître le développement, le comprendre, l'expliquer, pas de le prescrire, ni même de le favoriser. Ce qui, à mes yeux, j'y reviendrai, renvoie à une posture de formateur d'enseignant, dont le référentiel est doté d'une légitimité institutionnelle qui n'est pas une légitimité scientifique. C'est autre chose. Elle cible mes orientations, du moins pour l'instant, le développement dans le cadre du travail enseignant au quotidien, dans l'ordinaire des écoles et des établissements. Je pourrais dire que j'étudie la contribution de l'exercice professionnel à ce développement, ce qui le rapproche donc de la question de l'expérience professionnelle, en privilégiant, vous l'avez compris, sa dynamique sociale au travers des interactions avec les pairs. Et le lien avec les pratiques enseignantes, et non pas uniquement les pratiques d'enseignement, est important puisque j'étudie le développement au travers de l'évolution des pratiques, c'est-à-dire les pratiques sont un peu la trace ou l'attestation de ce développement. Alors, une posture assumée par rapport à cette étude, c'est la posture du chercheur qui travaille sur le développement professionnel. Donc, certains, je pense en particulier à Yves Clos, défendent la nécessité de provoquer le développement pour pouvoir l'étudier. Et c'est ce qu'ils visent au travers des dispositifs d'auto-confrontation croisée. Cette posture s'adosse aux travaux de Vygotsky, qui distingue, pour l'enfant en tout cas, deux types de développement interdépendant, un développement naturel relevant plutôt de l'entourage de l'enfant, et un développement culturel et relevant plutôt de l'école. Je fais rapide, bien sûr, je peux développer si vous le souhaitez. Pour ce second type de développement, la médiation de l'adulte est requise. Nous avons donc une relation dissymétrique entre un adulte qui sait et qui va élaborer les formats, pour reprendre l'expression de Brunner, visant à ce que l'enfant soit capable de faire seul demain ce qu'aujourd'hui il ne peut faire qu'avec l'adulte. Alors, je reconnais bien volontiers l'intérêt heuristique de cette proposition, mais je suis plus interrogatif sur sa transposition directe dans le champ du développement professionnel, dans lequel cette distinction entre les deux formes de développement me paraît plus difficile à maintenir. Je m'explique. Dans la médiation, l'adulte maîtrise l'objectif visé pour l'enfant. Dans le cas du développement professionnel, est-ce qu'un chercheur maîtrise cet objectif? Je ne le crois pas. Quoi qu'il en soit, avoir un projet pour les professionnels relève d'un projet de formateur, dont la légitimité, je l'ai dit tout à l'heure, s'adosse à son statut, à ses qualifications, à des référentiels, et certainement moins à un projet de chercheur. À mon sens, il ne peut pas y avoir de projet sans norme professionnelle visée, plus ou moins explicite, je vous le concède, et la recherche n'est pas en mesure de légitimer cette norme. Ma posture ne s'accompagne pas d'un projet professionnel pour les enseignants. Je distingue ma posture de chercheur, visant à connaître, d'une posture de formateur, visant à transformer, que je ne refuse pas d'adopter, je le dis bien au contraire, mais en la distinguant de celle de chercheur. Trois remarques complémentaires me paraissent nécessaires. Donc, si je ne provoque pas ce développement et que je l'étudie, c'est que je considère qu'il existe en dehors de mon intervention. Et comme je l'ai dit, il est sous-tendu par un certain nombre de dynamiques, dont la principale est sociale, j'y reviendrai tout à l'heure. Il serait aussi naïf de croire que le dispositif de recherche et notre présence assidue dans les établissements scolaires sont neutres. Et là, je rejoins tout à fait Yves Clos quand il dit qu'observer, c'est déjà modifié. Notre recherche modifie le contexte des pratiques, mais nous faisons en sorte de circonscrire son influence. Certainement pas de faire de la transformation de ce contexte un objectif de départ. À partir de cette posture, la question du rapport aux acteurs ne va plus de soi. Elle nécessite une phase importante de négociation au départ, basée sur la transparence du dispositif, et des phases de restitution aux acteurs, des résultats et des analyses. Je ne vais pas développer ici une réflexion sur le point, on y reviendra si vous le souhaitez, mais pour ceux qui sont intéressés, j'ai consacré un article à l'éthique du chercheur et qui traite de ces questions. Alors, on continue ce développement professionnel avec quelques éléments de définition. Donc, j'envisage le développement professionnel comme un processus composite et complexe, rendant compte de l'évolution professionnelle de l'enseignant dans son exercice professionnel. Je définis le développement comme un processus générique de mise en jeu de savoir professionnel. À ce propos, je distingue deux catégories ou deux familles de savoir professionnel. Ceux relatifs à la prise en charge des tâches professionnelles, faire classe, participer à un conseil, etc. Et ceux relatifs à la socialisation professionnelle, se positionner par rapport aux partenaires, par rapport aux collègues, etc. Construire son identité professionnelle. Je prends en compte deux dimensions interdépendantes du développement, une dimension individuelle au niveau de chaque enseignant, ce qui n'exclut pas bien sûr la contribution des pairs, et une dimension collective qui relève du groupe de professionnels travaillant ensemble. Cette seconde dimension, d'ailleurs, pose un certain nombre de questions et je vous proposerai d'en partager quelques-unes tout à l'heure. Je précise encore cette définition en disant qu'au sein du processus générique de mise en jeu de savoir professionnel, je cible principalement quatre processus interdépendants et je les appréhende chacun d'eux selon une perspective socio-cognitive. D'abord, le processus de construction de savoir professionnel, c'est-à-dire l'apprentissage. L'approche socio-cognitive m'invite à privilégier la construction inter-individuelle et la construction collective de savoir professionnel. Deuxième processus, le processus de mobilisation de savoir professionnel, c'est-à-dire leur mise en mémoire, tant Le processus de mobilisation de savoir professionnel, au sein des pratiques enseignantes, c'est-à-dire les pratiques individuelles, les pratiques interindividuelles, les pratiques collectives, qui vont nécessiter, pour être actualisées, de mobiliser des savoirs professionnels. C'est le processus suivant, c'est le processus de capitalisation de savoirs professionnels qui concerne la mise en mémoire de ces savoirs, tant capitalisation, tant individuelle que collective. Et le quatrième processus, c'est le processus de diffusion des savoirs professionnels, leur circulation, leur migration, mais aussi leur transformation entre les enseignants, au sein des équipes pédagogiques, mais aussi au sein des établissements et à l'extérieur. Deux remarques complémentaires à propos du rapport apprentissage-développement. D'une part, je considère que le développement est un processus plus large que l'apprentissage, puisqu'il regroupe des processus, d'autres processus importants. Et d'autre part, j'aurais tendance à ne pas trancher dans la polémique entre ceux qui défendent que l'un précède l'autre et que l'autre ou que l'autre précède l'un. Pour moi, l'apprentissage contribue au développement et la dynamique du développement contribue à impulser l'apprentissage. Parmi les quatre processus cités, celui de mobilisation occupe bien sûr une place privilégiée puisque c'est au travers de l'analyse des pratiques que j'étudie le développement. Alors, les dynamiques du DPE, développement professionnel, pardon. Donc, puisque le développement est un processus, j'ai essayé de pointer quelques-unes des dynamiques qui sous-tendent ce développement. J'ai fait un schéma. Donc, en fait, il y a des dynamiques intra-individuelles, au niveau de l'individu, si on peut dire, qui relèvent en particulier de processus d'engagement. Dans la classe, face aux élèves, dans un collectif d'enseignants, dans l'établissement, dans le métier, par rapport à des partenaires. Elles sont aussi sociales, soit interindividuelles, soit relevant de la dimension psychosociale au sein d'un collectif. Elles sont épistémologiques, c'est-à-dire liées aux interrelations des savoirs professionnels, à leur circulation, à leur migration. Elles sont environnementales, et correspondent à différentes prescriptions, injonctions, sollicitations qui peuvent venir aussi bien du ministère que du niveau académique, je pense aux IPR, de l'environnement local, les parents d'élèves, les associations, les SEL, les classes, ou même de l'intérieur de l'établissement, un chef d'établissement, biscolaire, CLAE, CLAC, etc. Et elles sont aussi relatives, j'ai mis dynamique des pratiques, à l'auto-organisation de l'action en situation, donc à l'auto-organisation des pratiques et de leur déroulement. C'est ce que j'ai appelé dynamique des pratiques. L'ensemble de ces dynamiques est aussi sous-tendu par une dynamique plus large qui serait constituée par les évolutions du travail enseignant. Alors, cet ensemble d'éléments de définition du développement professionnel, je les ai repris dans un tableau synthétique qui reprend ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que d'une part, on a les différents savoirs, de l'autre, les différents types de processus. Alors, par rapport à ce tableau, vous remarquerez qu'il y a les savoirs, qu'il y a les processus, il n'y a pas les dynamiques. Évidemment, elles constitueraient une sorte d'arrière-plan énergétique, si j'ose dire, de ce développement. Et surtout, ce tableau, la troisième colonne, inclut l'hypothèse d'une cognition qui comporte une sphère explicitable, c'est-à-dire accessible à l'acteur, et une sphère implicite qui est cantonnée dans le tacite. Alors cette double approche de la cognition, je l'avais développée en 2002 dans un article de la Revue française de pédagogie. Je ne vais pas y revenir ici, mais j'en reparlerai tout à l'heure au moment de la méthodologie. Alors justement, repères méthodologiques. Je rappelle que j'appréhende le développement au travers de l'évolution des pratiques professionnelles et leurs modifications constituent les traces de ces développements. Pour ce faire, j'adopte une démarche de type ethnographique et je vais en relever quelques éléments caractéristiques. Ce n'est pas étonnant dans une démarche ethnographique, c'est d'abord l'immersion de longue durée, puisqu'il s'agit, je le rappelle, d'étudier des processus qui, par définition, ne sont pas observables directement, mais de manière indirecte, au travers de traces. Et pour étudier ces processus, la manière la mieux appropriée me paraît être l'observation longitudinale sur la durée. En effet, la durée permet, à partir des états successifs, de repérer des évolutions, des transformations. Je travaille donc sur un petit échantillon d'école ou d'établissement, mais j'enquête pendant des durées importantes, des demi-journées ou des journées, une à plusieurs fois par semaine ou sur plusieurs mois, voire sur une ou plusieurs années scolaires, comme c'est le cas actuellement. Cette immersion de longue durée dans une école ou un établissement nécessite de construire une relation avec les enseignants, les élèves, les personnels. Il faut construire sa place avec le statut et le projet qui sont ceux d'un chercheur, ce qui ne va pas sans soulever un certain nombre de questions. Alors, autre repère méthodologique, le principe de la double lecture. Alors, l'enquête ethnographique mobilise différentes ou diverses prises d'informations. Les principales sont l'observation ethnographique, une observation ouverte, donc, non contrainte par une grille qu'on va élaborer a priori. On a un carnet de bord, les datas, une prise de notes importante. Et cette observation concerne l'ensemble des pratiques professionnelles sous la durée de présence. Et s'appuie évidemment sur une vigilance permanente en gardant en mémoire le projet de recherche pour être le développement professionnel. Autre prise d'information, les entretiens, au-delà des échanges informels, souvent riches d'informations d'ailleurs, y compris avec les autres personnels que les enseignants, sont utilisés des entretiens semi-directifs, individuels, mais aussi des focus group, c'est-à-dire des entretiens avec des collectifs, principalement d'enseignants. Et je prends aussi en compte les documents produits, c'est-à-dire les comptes rendus, les feuilles de travail, les projets, les affiches, les mails, les facs, etc. Alors, vous constaterez que cette enquête prend en compte ce que j'ai appelé à la fois le contexte pour l'enseignant, c'est-à-dire une lecture des pratiques du point de vue de l'acteur, c'est en particulier le cas dans les entretiens, où il va expliciter ses pratiques, et le contexte pour l'observateur, c'est-à-dire une lecture des pratiques de l'acteur du point de vue de l'observateur ou du chercheur, c'est-à-dire en préservant une extériorité. Et nous retrouvons là le principe de la double lecture, point de vue de l'enseignant, point de vue de l'observateur, en précisant que l'articulation entre les deux se fait dans le courant de l'analyse, puisque les données s'intègrent chronologiquement à une analyse qui s'élabore elle aussi sur la durée. Alors, de manière à propos des approches, j'utilise de façon privilégiée l'approche qualitative, des approches qualitatives. Donc, je privilégie la qualité de l'information à la quantité d'information, en termes d'occurrence, par exemple. Cela ne m'empêche pas, sur des points très particuliers, de recourir à des méthodes plus quantitatives, mais elles sont au service d'une démarche plutôt qualitative. Alors, comparaison et analyse. L'analyse des éléments empiriques se fait par catégorisation progressive et en partie inductive, à partir du balisage initial posé grâce au projet de recherche, avant de faire fonctionner différents niveaux de comparaison qui vont permettre d'affiner des catégories devenant des variables et les différents états que peut prendre cette variable, les modalités. Je vous renvoie à l'ouvrage de Miles et Huberman à ce propos, qui est très, très complet, et je précise deux choses. Ces catégories intègrent les différents éléments empiriques, observations, entretiens, documents, et l'élaboration de ces différentes catégories fournit un premier niveau d'analyse, mais ce n'est qu'après la réorganisation de l'ensemble des éléments, à l'aide des catégories finales, que l'analyse peut vraiment se structurer. Alors, quelques mots sur la généralisation des résultats, qui, dans une démarche qualitative, se heurte à la faiblesse des échantillons. Pour les approches quantitatives, cette question ne se pose pas, puisqu'il y a des inférences. Ça ne résout pas la question des indicateurs, mais il y a des inférences. En ce qui concerne l'approche qualitative, trois vecteurs de généralisation peuvent être retenus. Rendre compte d'un processus ne peut se faire qu'au travers de son actualisation au sein d'une situation particulière. Donc l'on peut donc admettre que ce même processus pourra se retrouver actualisé différemment au sein de d'autres situations. Et chacune description donc contribue un peu, ou fournit une contribution en tout cas, à sa connaissance. Deuxième vecteur, les différents niveaux de comparaison permettent déjà de s'extraire de la particularité pour tendre vers la généralisation. Et enfin, troisième niveau, ce sont les résultats obtenus qui sont ensuite mis en relation avec les résultats des autres travaux scientifiques sur le thème. Ils peuvent se prolonger, se nuancer, s'opposer même à la connaissance existante, et à partir du moment où ils entrent dans cette connaissance, ils participent de ce troisième monde que décrit Popper, celui des connaissances émancipées de leur contexte de production. Alors, la question de la validation, de réflexion rapide, parce que je vais passer à des résultats plutôt. Donc, les recherches de type qualitatif s'appuient sur une importante validité interne, c'est-à-dire la cohérence du procès de recherche, et la rigueur de l'articulation entre les différentes phases. Et deuxième point, la validation d'une recherche se fait in fine par la communauté scientifique d'appartenance, au travers de ses représentants. C'est le cas d'un jury de thèse, c'est le cas d'un comité de lecture. Dans le cas d'une recherche qualitative, il existe une difficulté particulière qui est celle de la dimension des articles ou des communications, qui ne permet pas toujours de développer les apports empiriques, ce qui pose un problème important pour la recherche qualitative, à mon sens. Alors, on rentre dans les apports plus concrets de mes travaux. Alors, en ce qui concerne, je vais aborder d'abord le niveau inter-individuel de construction et de mobilisation des savoirs professionnels. Alors, quelques mots sur les théories de l'apprentissage social auxquelles je me réfère. En fait, j'utilise plutôt deux apports. C'est d'abord la proposition de Bandura sur la théorie de la vicariance, qui met en avant un processus de modelage cognitif à partir de l'imitation d'un père, à condition que cette imitation soit active, donc transformatrice. Bandura montre qu'on apprend des autres en les observant et en reproduisant leur manière de faire, pour peu qu'il ne s'agisse pas d'une imitation mécanique, mais d'une véritable réappropriation. Ensuite, la théorie du confessionnal cognitif, qui souligne surtout la représentation, la contribution de représentations différentes d'un objet commun et les controverses qui vont s'en suivre dans la genèse de nouveaux schèmes d'action. La perturbation, ici, d'origine sociale, va mobiliser le processus d'accommodation sur lequel repose la construction donc, de nouveaux schèmes. Alors, ces deux contributions que je présente ici très très vite me paraissent complémentaires quand, dans la théorie de la vicariance, l'autre enseignant ici, est perçu comme une ressource. L'enseignant va faire le choix d'imiter, entre guillemets, imiter son collègue. Tandis que dans celle du conflit cognitif, l'autre est perçu comme une contrainte. L'enseignant va être obligé d'argumenter face à son collègue qui défend une position différente de la sienne. Alors, quelques illustrations empiriques sur les processus vicariants. Alors, je vais vous citer une première recherche qui a été conduite dans une école maternelle de 4 classes, où le public scolaire est constitué de ce qu'on appelle à Toulouse les parents Airbus. Je ne sais pas si on appelle ou si on appelait, mais en fait, bon. Une population aisée, donc, qui soumet l'école et les enseignantes, qui étaient pourtant expérimentées, à une forte pression. Et on a effectué une enquête ethnographique qui porte pendant un trimestre sur la conception et la mise en place d'un projet Afrique, qui concernait donc toutes les classes de l'école, et qui devait déboucher, ou qui a débouché, sur une exposition. Alors, au fur et à mesure du projet, évidemment, les échanges entre enseignants sont devenus beaucoup plus intenses et se centraient sur le projet. Et ces échanges, même s'il y avait des réunions formalisées, se passaient le plus souvent durant l'état interstitiel, qui sont les récréations sont assez longues, maternelles, mais bien plus que dans la cour ou dans la salle des maîtres, ces échanges étaient très intenses autour de la photocopieuse. Et c'est là où on voyait vraiment le plus d'échanges. Alors, je vais vous prendre un exemple pour illustrer le processus vicariat. L'enseignante de petite section oublie dans la photocopieuse une fiche. C'était en fait la silhouette du continent africain qui devait servir à coller les animaux qui étaient en Afrique et ceux qui n'étaient pas en Afrique étaient collés à côté. Elle est récupérée par une enseignante de grande section qui, elle, va s'en servir pour classer des étiquettes de mots. Les noms des personnages du conte africain seront à l'intérieur, c'est comme un tableau à double entrée. Alors, il me semble qu'il y a une phrase, enfin, lorsqu'elle rend ensuite la page ou la fiche à sa collègue, ce qu'elle dit me paraît bien illustrer le processus vicariant, puisqu'elle dit « Pour les mots dans la silhouette de l'Afrique, je t'ai piqué l'idée ». Il me semble qu'on est, elle a pris l'idée, mais évidemment, elle l'a considérablement transformée, puisque ça n'avait plus du tout la même utilité. Je souligne au passage, d'ailleurs c'est ce que dit Bandura aussi, c'est que le statut symbolique de la collégialité n'est pas neutre. On peut penser, surtout dans cette école, je passe sur les détails, que si cette fiche, qui aurait pu être le cas, avait été abandonnée par, oubliée plutôt, par un animateur du CLAE, jamais une enseignante n'aurait copié, enfin dans cette école je précise, n'aurait copié cette fiche. Ça c'est évident, pour moi en tout cas. Alors, deuxième illustration, une recherche en collège, classée ZEP, donc en tant qu'élève, dans le quartier du Mirail. Donc là aussi, j'ai effectué une enquête ethnographique pendant une année sur deux projets qui avaient été retenus par la mission innovation du rectorat. L'un concernait la troisième d'insertion, l'autre la formation des délégués des classes de sixième dans le cadre de la mise en place de l'heure de vidéoclasse et réunissait les professeurs principaux de sixième. Alors, le projet des délégués, comme il l'appelait, portait sur l'écriture et la réalisation d'un film sous la citoyenneté dans le collège. Les différents ateliers, scénarios, prises d'images, montages, etc., étaient conduits par des binômes d'enseignants et se tenaient entre midi et deux. Alors, je vous propose un exemple de savoir professionnel construit durant ce travail conjoint par une professeure de mathématiques et qui a porté sur la relation pédagogique à partir de celle mise en place dans les ateliers, c'est-à-dire évidemment avec des élèves volontaires, etc., qui a été conduite, cet atelier, donc avec un enseignant expérimenté qui était professeur d'anglais. Donc, par observation, au travers d'échanges avec cet enseignant, l'enseignante a progressivement modifié les modalités de ses relations avec ses élèves. En particulier, elle était plus attentive aux stratégies des élèves, à leurs difficultés, ce qui était très nettement repérable dans les observations. Et alors, cette modification, je l'ai dit, était progressive. Elle a d'abord concerné le temps des ateliers. Elle a changé sa manière de faire dans les ateliers, puis ensuite dans les classes où elle n'avait que demi-groupe, et ensuite, vers la fin de l'année, en classe entière. Et elle reconnaît, quand on a un entretien avec elle, que ces ateliers lui ont permis d'avoir un regard tout autre sur les élèves et sur la classe, en raison, d'après elle en tout cas, de la conduite d'activités qui ne sont pas les cours traditionnels, et comme elle dit, et ça fait écho un peu au travail de Patrick Rayou, sans la barrière de la discipline, comme si encore la discipline posait... un peu comme si la centration sur la discipline enseignée se faisait au détriment de la prise en compte des élèves. Une illustration du conflit socio-cognitif, alors là aussi je reviens à la recherche en maternelle, avec un dispositif, qu'ils ont appelé le dispositif des délégués, et le principe était le suivant. Deux ou trois élèves délégués, choisis par l'enseignante, allaient présenter le travail de leur classe à une autre classe. La classe qui recevait envoyer dans un second temps ses délégués pour rendre compte de l'utilisation qui avait été faite du premier rapport. On réalisait une fiche technique et ensuite on faisait un compte rendu. Alors je peux prendre un exemple plus concret, plus dans le cadre de ce dispositif, c'est la confection de masques africains en argile et les échanges entre les deux classes. Donc, l'une a mis en place la conception des masques et l'autre a repris et a aussi fait des masques. Alors j'ai évidemment observé les deux séances et on peut constater une évolution très importante entre les deux séances. L'expérience d'une démarche très technique et très guidée dans la première classe, on travaille autour des formes, autour des couleurs caractéristiques, celle-là on peut les prendre, celle-là on ne peut pas les prendre, cette fois on peut la prendre, celle-là on ne peut pas, a permis, ou semble avoir permis en tout cas, dans la deuxième classe, une démarche beaucoup plus basée sur l'expression. Là, on inventait des masques sans ces contraintes, comme si la première séance avait servi d'expérience pour la deuxième, ou avait constitué de l'expérience pour l'enseignante qui a mené la deuxième. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de parler de conflit socio-cognitif, on peut ne pas être d'accord, avec les limites, surtout qu'on n'a que deux protagonistes. Pourtant, si on observe les échanges, j'ai bien pu constater que les perturbations, c'était vraiment des controverses, elles n'étaient pas d'accord, il y avait des perturbations cognitives manifestes, donc on n'était pas simple, on ne se bornait pas à ajuster, on échangeait vraiment, Et il me semble que ça peut se rapprocher du conflit socio-cognitif. Alors, on passe à la dimension collective, alors, qui pose, je vous l'ai dit, un certain nombre de problèmes. Alors, pour la construction et la mobilisation de savoir collectif, la première étape, pour moi en tout cas, dans ma réflexion, a été d'essayer de théoriser l'acteur collectif, parce qu'on en parle beaucoup, mais ça me paraissait pas très clair, donc j'ai essayé de travailler un peu là-dessus, en partant comme point de départ d'une distinction entre l'équipe pédagogique, telle qu'elle est instaurée par les textes officiels, qui vous disent, voilà, dans une école, il y a une équipe pédagogique. Et ensuite, les modalités de travail effectifs qu'on peut repérer dans le quotidien des enquêtes. Et c'est un peu différent. J'ai donc, pour ça, à partir de cette distinction, j'ai procédé à une large recension de travaux pour proposer une synthèse des dimensions qui me paraissent pertinentes pour rendre compte à la fois de la constitution et du fonctionnement de ce que j'ai appelé un collectif d'enseignants. J'ai développé ce point dans un article qui va paraître dans une revue suisse prochainement, mais bon, je vous propose la synthèse. Donc ce tableau distingue, comme je l'ai dit, la forme de travail collectif telle que prescrite par l'institution, injonction de mise en place de groupes de travail d'équipe pédagogique, des modalités de travail collectif, à droite donc, effectivement mise en place dans le quotidien des établissements scolaires. Cette distinction entre le prescrit et le réalisé invite à être attentif aux modalités de constitution de ces collectifs, à leur marge d'autonomie effective et au degré d'engagement de leurs membres. C'est ce qui figure dans le... Alors, ce tableau, donc, cette synthèse, intègre la prise en compte du cadre institutionnel qui génère des prescriptions, tant au niveau national, avec les textes réglementaires, les instructions officielles, qu'au niveau local, au travers des modalités de pilotage des établissements scolaires. Il cible à la fois le fonctionnement du groupe, avec des pratiques de collaboration ou les modalités de construction des accords, sans exclure les stratégies individuelles des acteurs, que le produit de ce fonctionnement, notamment le répertoire de règles de fonctionnement, le tout en lien avec une sphère implicite qui sous-tend ce fonctionnement, les arrière-plans culturels en particulier. Alors, notons que dans ce tableau ne figure pas la répartition des tâches au sein de ce collectif, qui constitue pourtant un indicateur très important du fonctionnement du groupe. Il s'agit en fait d'une forme de pratique collective qui va concerner l'ensemble des composantes. Donc je ne l'ai pas mis à part. Alors, j'ai essayé donc de proposer une définition ou une synthèse de la manière de rendre compte ou de décrire un acteur collectif, que j'ai appelé le collectif d'enseignants. Mais comment cet acteur apprend-il? Alors, la question reste posée. Pour répondre à cette question, comment le groupe apprend-il, je cite simplement le travail de Nonaka et Takeshi sur la spirale de création de connaissances organisationnelles. Je ne reprends pas la définition, vous avez le schéma. Cette spirale, enfin, ou du moins cette, aussi bien autant la notion de connaissances organisationnelles pourrait être rapprochée certainement de savoir professionnel collectif. En revanche, leur proposition fait transiter la construction de ces connaissances organisationnelles par le niveau individuel. Ça part de l'individu et ça progresse sous forme spiralaire. Je n'ai pas réussi à en rendre compte avec un schéma, excusez-moi. Mais bon, ça progresse de l'individu vers l'organisation. Et donc, ça part de l'individu. Donc, cette proposition me paraît présenter quelques limites parce que, d'après moi, le groupe peut apprendre sans passer nécessairement par le niveau individuel. Voilà, donc la question des compétences collectives, notamment, pose la question du niveau individuel. Alors, de manière générale, j'ai pris celui-là, il y en a quelques autres de propositions, mais elles sont généralement, l'apprentissage collectif est assez peu théorisé, du moins à ma connaissance, et je fais l'hypothèse que s'il ne l'est pas vraiment, c'est parce que le développement des travaux sur les communautés de pratique qui se développent de façon importante pour les réseaux virtuels en particulier, ou les organisations apprenantes qui portent plutôt sur le champ de l'entreprise, parasitent un peu cette théorisation, car ces travaux s'attachent davantage à mettre au jour les éléments ou les conditions qui vont favoriser l'apprentissage qu'à en décrire les processus de construction. On ne sait pas vraiment. Alors, ça ne m'a pas empêché d'essayer d'aller voir si, malgré l'absence d'un cadre explicatif satisfaisant, décider d'aller enquêter pour mettre au jour quelques traces de cet apprentissage. Alors, je vous prends un exemple. La recherche concernait une école là, élémentaire, donc un public scolaire traditionnel, enfin, sans problème par rapport à certains autres. Et donc, j'ai conduit une enquête un peu différente, uniquement par focus group, visant à l'acquisition des compétences professionnelles, entre guillemets, qui étaient requises pour prendre en charge les différentes tâches qui, relatives au métier d'enseignant, tâches individuelles et tâches collectives. Alors, ça concerne les parents, donc je dis un mot sur les parents d'élèves à l'école primaire. La loi d'orientation en 89 a érigé les parents d'élèves à l'école primaire à membres à part entière de la communauté éducative. Ils sont destinataires des livres scolaires. Leur avis est central pour l'orientation des élèves. Et ils ont des représentants élus au conseil d'école, vous savez tout ça normalement. Donc l'irruption de ces nouveaux partenaires dans le quotidien de l'école a nécessité, tant au niveau individuel, les relations avec les parents de sa classe, qu'au niveau collectif, les relations avec les parents d'élèves de l'école et leurs représentants, la construction de positionnements et l'élaboration de nouveaux types de savoirs professionnels. Alors, dans cette école élémentaire, les enseignants se sont attachés à, comme ils disent, gérer ces parents d'élèves. Et le conseil d'école, en particulier, a fait l'objet d'adaptations progressives, qu'ils m'ont bien explicité, et ils ont appris, ils l'ont reconnu, à tenir, c'est encore leur terme, ce conseil. Tout d'abord, la phase de préparation du conseil est très importante, parce que vous savez qu'il y a, enfin, dans cette école, c'est quand même assez général, il y a une préparation du conseil, c'est-à-dire une réunion des enseignants pour préparer le conseil, et ils ont bien compris qu'il fallait, comme ils disent, maîtriser l'ordre du jour. Et ils utilisent en particulier la rubrique « questions diverses » pour renvoyer, s'il y a un point qui ne leur paraît pas proposé, par des qui leur paraît pas ou qui leur paraît risqué, on va dire, ils le mettent en fin de questions d'ordre du jour, de questions diverses, et ils font traîner la réunion de façon à ce que tout le monde s'en aille avant qu'on traite le point en question. Donc, voilà, ça c'est une stratégie qu'ils ont carrément explicitée. L'ordre des points de l'ordre du jour n'est pas non plus aléatoire. Par exemple, s'il y a un point qui les intéresse en particulier, ils ont tendance à le faire passer juste après le point initial qui porte sur les travaux, les dépenses. Et dans le cas où ils ont besoin de l'appui de l'élu, ils sont particulièrement agressifs sur le premier point, de façon à être sûr d'avoir l'appui de l'élu sur le second. Et ça, ils vous le disent clairement. Bon, alors, ça ne se limite pas à la préparation. Là, on a vu les points, mais ce n'est pas uniquement pour la préparation. Ça va assez loin, cette préparation. Ce n'est pas uniquement les points de l'ordre du jour, parce que les dimensions stratégiques sont assez fines et elles vont même préciser qu'il ne faudra pas le dire comme ça le jour de la réunion. On va même savoir les mots qu'on va employer dans certains cas. Alors, ensuite, pendant la réunion, il y a des stratégies collectives in situ. Alors, il y a un soutien souvent ostentatoire à la directrice qui est chargée de coordonner, de conduire le débat. Elles font bloc, enfin les enseignantes font bloc face aux partenaires, et si une d'entre elles est en difficulté, on vient à la rescousse, c'est le terme employé. Cela peut se traduire par des attitudes assez offensives d'ailleurs, qui peuvent rappeler les prérogatives de chacun, du moins c'est comme ça qu'elles l'entendent. Je vous cite l'extrait. Une mère d'élève voulait nous donner une leçon, on a trouvé la faille, on y est tous allés, les uns après les autres. En dehors du conseil d'école, cette stratégie, cette technique collective peut également être mobilisée face à des parents d'élèves qui posent problème à l'enseignant d'une classe. Et là, on le convoque devant un conseil de cycle au grand complet. Et dans ce cas, le décorum n'est pas neutre du tout. On installe la salle. Les enseignants sont au fond de la salle, sur une table, bien assis. Et puis, à l'autre bout, il y a deux chaises pour les parents d'élèves. Voilà. Il y a la directrice au milieu qui fait ça. Alors, donc, on voit bien qu'il y a des... parler d'apprentissage, de positionnement, d'apprentissage professionnel relevant du positionnement par rapport aux parents d'élèves. Alors, une autre forme de maîtrise des parents d'élèves, celle-là, je reviens à l'école maternelle et le projet Afrique. Une maman d'élève, pendant la classe, est arrivée et a contesté en pleine classe l'exactitude d'un panneau que fait l'enseignante, le fameux panneau avec les animaux, en disant « le tigre, c'est pas en Afrique, c'est en Asie ». Et elle l'avait collé, comment ? Ah non, non, mais elle avait raison. Ça, la question n'est pas là. Tout le monde a appris que... Bon, mais donc, l'enseignante avait fait une erreur, et là, en pleine classe, en plus, nous étions là, quelques étudiants, donc c'est vrai que ça fait un clash un peu important. Et du coup, l'ensemble de l'école a fait bloc avec la directrice, c'était un peu la directrice, et ils ont pris, comme ils l'ont dit, leur distance par rapport aux parents, c'est-à-dire que les parents, ils rentraient moins dans l'école. Enfin, bon, il y a eu plein de signes très, très importants, y compris dans l'exposition. Ils ont eu à peu près 10 cm carrés pour tout ce qu'ils avaient amené sur l'ensemble de l'exposition. Voilà. Et donc, les parents ont été mis un peu à distance, et même les ATSEM se sont montrés solidaires des enseignantes, et dès qu'il y avait un petit doute, elles allaient immédiatement sur Internet vérifier si, pas forcément si le tigre vit en Asie, mais tous les détails concernant le contenu du projet Afrique. Et donc, on voit qu'ici, la maîtrise des parents s'est effectuée au travers de la maîtrise des contenus. Et on peut donc constater que les savoirs professionnels sont interdépendants, puisque là, on a une catégorie de savoirs collectifs qui relève de la socialisation professionnelle, c'est-à-dire le positionnement des enseignants par rapport aux parents, mais il est directement lié à une catégorie individuelle qui relève de la prise en charge des tâches professionnelles, les contenus des enseignements de chacune des classes. Hein. Donc, on a ce lien. Alors, j'avais juste un cas particulier qui était celui du savoir analysé. Là, ça revient à la recherche du collège. Je vous fais voyager un peu entre différentes recherches. Et c'est le collectif des professeurs principaux de 6e. Donc, pendant l'observation des réunions, au départ en tout cas, les enseignants ont consacré une période extrêmement importante à se mettre d'accord sur les principes pédagogiques partagés. Sur quoi ils étaient d'accord, bon. À partir vraiment d'explicitation, de controverses, ça a duré assez longtemps. Et ensuite, ils se sont servis de ce qu'ils avaient, des accords qu'ils avaient construits, on va dire, pour analyser le déroulement du projet, qui a d'ailleurs beaucoup évolué par rapport à la conception de départ. Et à partir de ces principes, ils ont utilisé ces principes donc pour analyser. Ils avaient une monographie à faire, ça faisait partie de la commande du rectorat. Et donc, en plus, ils ont été obligés d'écrire un bilan, une évaluation de ce projet. Et si on examine la monographie et la préparation quand ils l'ont écrite ensemble, on se rend compte que le niveau d'analyse est relativement important, surtout si on compare avec l'autre groupe qui avait fait la même démarche. Voilà, donc, visiblement, ce groupe a appris ou a construit quelque chose qui s'apparente à un savoir analysé. Et, alors bien sûr, c'est l'image du praticien réflexif qui est très en lien avec la professionnalisation, mais moi je voudrais insister plutôt sur le rôle du collectif par rapport à ce savoir. Et ce collectif a existé d'abord par une activité partagée, ils ont fait ensemble, ils ont travaillé ensemble, et c'est à partir du moment où ils ont pu travailler ensemble, qu'ils ont pu échanger ensemble sur ce qu'ils avaient fait. Donc on fait ensemble et ensuite on peut échanger. Parce qu'on a accepté de partager le travail, on va accepter d'en parler ensemble. Alors, bien sûr, l'important est qu'il y ait ces accords de départ et ces accords sur les principes pédagogiques au départ. Alors, sur la construction de ces accords, il y a beaucoup à dire, bien sûr. Je vais faire très vite. Simplement, bien sûr, ils s'ancrent dans les valeurs individuelles de chacun des enseignants. Mais lorsqu'on construit ces accords, il y a des négociations, il y a des échanges, et après, il y a une stabilisation qui permet l'analyse. Et avec prudence, je dirais qu'il me semble que ce savoir analysé, du moins dans cette situation, il s'est d'abord construit au niveau du groupe avant de pouvoir se prolonger au niveau individuel de chacun des enseignants. Et ça, après, j'ai pu le constater lorsqu'on a analysé certaines séances de classe en particulier. Je vais conclure, je pense que le temps... Donc, comme je vous l'annonçais, je vous ai fait part de quelques avancées modestes de mes recherches, sans vous cacher les questions que je me pose, notamment au niveau du collectif. Alors, ce n'est pas une situation intellectuelle des plus confortables, il vaut mieux avoir un cadre bien précis, une méthodologie bien stabilisée. Bon, là, c'est plutôt une période de construction, mais bon, je pense que c'est aussi... que les questions, même si elles sont un peu inconfortables, sont quand même un aiguillon intéressant pour avancer. Alors, je vais juste, pour terminer, reprendre les 4 chantiers par ordre d'ambition qui me paraissent importants pour mes travaux. C'est d'abord essayer d'analyser ou approfondir la description du passage de l'intérêt individuel et du collectif à l'individuel, essayer d'affiner la description de cette chaîne, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de rupture ou de transformation, hein, qui va de la construction des savoirs professionnels jusqu'à leur mobilisation au sein des pratiques enseignantes. Ensuite, étudier de façon plus fine les processus de diffusion de ces savoirs, que je n'ai pas trop étudié, et de capitalisation des savoirs professionnels. Notamment, il y a un chantier qui me paraît très intéressant, c'est la capitalisation collective. Comment, au niveau d'une équipe, d'une école, d'un établissement, on capitalise des savoirs ou pas, et quelle forme prend cette capitalisation. Il y a peut-être un chantier intéressant. La question de l'apprentissage collectif, ça reste en suspens. Un groupe apprend-il? Comment apprend-il? Est-ce que ce sont uniquement les membres qui le composent, qui apprennent individuellement, et seul le contexte alors serait social? Là, il y a du travail, je pense. Et puis, je vous ai dit que je n'avais pas de théorie générale du développement. Ça veut dire que je vais essayer de contribuer, en tout cas, à avancer dans ce domaine. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir contourner longtemps la sphère de la formation initiale et de la formation continue. Le développement professionnel, certes, il se trouve dans le quotidien des pratiques, mais il se trouve aussi en formation initiale et en formation continue. Donc, il s'agira de l'intégrer. Et donc, l'objectif serait de fournir, à je ne sais quel terme, une contribution à une théorie générale du développement professionnel de l'enseignant. Je vous remercie.